Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est la marche des sciences.
Oh, regardez. Oh. Eh oui, ces panneaux se sont écartés.
Nous ne sommes plus séparés de la mer que par ces plaques de cristal. Espérons en effet qu'elles sont solides.
Mais c'est le même principe que la cabine du timonier. Oh.
Ah, c'est admirable.
C'est le fond de la mer qu'ils éclairent maintenant, monsieur.
Oui. Et quelle lumière!
Ah, pour ça, on voit comme en plein jour.
Les abysses, univers merveilleux, fascinant, mais tout aussi angoissant pour les hommes qui, jusqu'à aujourd'hui, n'en ont effleuré qu'une infime partie. Jules Verne en a fait le sujet de son célèbre roman « 20 000 lieues sous les mers » et bien d'autres auteurs ont saisi ce monde inconnu pour y laisser vagabonder leur imagination à loisir. De l'Antiquité à aujourd'hui, le rêve de pénétrer les mystères du monde sous-marin a hanté des générations. Aristote distinguait trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Mais ceux qui vont sous la mer, qui sont-ils ? L'univers abyssal commence à 1000 mètres de profondeur, monde du silence et des ténèbres, fertile en peur et imagination, fascination et interrogation, repère de monstres abominables et autres créatures dont certaines, au fil du temps, sont passées du rêve à la réalité. Quelles relations se sont nouées entre l'homme et les abysses ? Par quels moyens a-t-on relevé le défi de conquérir ce monde sous-marin ? Quelle place les scientifiques ont-ils occupé dans cette aventure ? Et faudra-t-il préserver les abysses de l'homme ? De la terreur à la curiosité, de l'exploration à l'exploitation, les campagnes de recherche se sont multipliées au fil des siècles. Les intérêts et les motivations ont évolué, mais les abysses restent encore lieu de mystère pour l'homme. Découverte aujourd'hui dans la marche des sciences sur France Culture de cette histoire des abysses avec deux invités, Christophe Mijon, journaliste et auteur du livre tout récemment paru chez Paulsen, Abysses, une histoire des grands fonds, et puis en duplex de France Bleu Gironde à Bordeaux, l'océanographe Daniel Reiss, ancien scientifique de l'Ifremer et qui a notamment pris part à des campagnes de recherche sur l'écologie abyssale. Et il est l'auteur du livre « Dans la nuit des abysses », un livre paru aux éditions Découverte Gallimard. Et comme d'habitude, cette première partie d'émission sera émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales et de textes lus par le comédien Thibaut de Montalembert. Et puis en seconde partie d'émission, vers 14h45, nous poursuivrons notre thématique océan avec Jean-Louis Etienne qui se prépare à vivre une nouvelle aventure du nom de Polarpod et il nous fera partager ses vœux 2016 pour ce milieu marin. Mais tout de suite, les mystères des abysses.
C'est la haute mer. L'eau y est très profonde. Des formes épouvantables, faites pour n'être pas vues par l'œil humain, errent dans cette obscurité vivante. De vagues linéaments de gueules, d'antennes, de tentacules, de nageoires, d'ailerons, de mâchoires ouvertes, d'écailles, de griffes, de pinces, y flottent, y tremblent, y grossissent, s'y décomposent et s'y effacent dans la transparence sinistre. D'effroyables essaims nageant rôdent, faisant ce qu'ils ont à faire. C'est une ruche d'hydres. L'horrible est là, idéal. Figurez-vous, si vous pouvez, un fourmillement d'holothurie. Voir le dedans de la mer, c'est voir l'imagination de l'inconnu, c'est la voir du côté terrible. Le gouffre est analogue à la nuit.
Bonjour Christophe Mijon.
Bonjour Aurélie.
Bonjour Daniel Reiss.
Bonjour Aurélie.
Alors on vient d'entendre l'extrait du livre de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, un livre qui est paru en 1866, et donc avec ce monde de l'imaginaire qui, même aujourd'hui, malgré les technologies de pointe et autres avancées scientifiques, demeure, ce que vous écrivez dans votre livre Christophe Mijon, le dernier refuge du doute, l'ultime bastion de l'inconnu et de l'inexplicable. Alors on va s'y intéresser aujourd'hui. Partons tout d'abord, si vous le voulez bien, sur le monde de l'imaginaire. Abyss, ça veut dire abîme, je crois, Christophe Mijon, hein, dans les textes bibliques. En tout cas, c'est cette notion aussi, ce rapport au déluge.
Alors, si on reprend l'étymologie, ça vient d'abord du grec abyssos, que les latins ont repris ensuite en abyssus, qui s'est transformé petit à petit en abysmus. Et donc, on a eu coexistant l'abîme et l'abyss au singulier pendant très longtemps. Et les abysses au pluriel sont apparus seulement fin 19e, c'est très récent. Effectivement, cette notion d'abyssos, d'abyssus, c'est-à-dire tout ce qui est sans fond, tout ce qui est insondable, perdure pendant plus de 2 millénaires pratiquement.
Et alors depuis l'Antiquité, donc l'homme a peuplé comme ça ces abysses d'êtres imaginaires ou de monstres dont on ne sait pas forcément quelle forme ils peuvent prendre d'ailleurs.
J'aime beaucoup la phrase de Hugo dans Les Travailleurs de la mer. D'ailleurs, compliment au comédien, j'avais les poils du dos tout hérissés quand il a lu son petit extrait. Hugo disait « Là où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer ». Et pendant des siècles, l'esprit ne s'est pas privé de continuer. Il a peuplé donc les abysses de monstres, de créatures, de tout ce que son imaginaire avait refoulé pendant des siècles.
Daniel Reiss, sur ce thème-là, justement, les abysses comme antre de l'imaginaire, et depuis longtemps, hein, depuis l'Antiquité.
Ah oui, absolument, ça a été la source de toute une série de romans. Les cartographes anciens, d'ailleurs, dessinaient des monstres horribles sur leurs cartes, d'abord pour montrer à quel point ils avaient été courageux en allant travailler sur ces mers lointaines, et aussi pour empêcher les autres d'y aller en leur faisant craindre cette proximité de monstres absolument atroces.
Et pendant longtemps, Christophe Mijon, on a estimé d'ailleurs que ces abysses étaient immuables, ça ne bougeait pas.
Elles ont commencé à bien bouger, avec Pythagore notamment, qui imaginait des ondulations sur le fond qui étaient dues au feu intérieur de la Terre. Donc on avait un fond abyssal qui remuait, qui bougeait. Après, il y a eu des histoires de conduits, de siphons, notamment par Platon. Et puis Théopompe, le bien nommé, pour parler de transport de liquide, parlait d'un tunnel qui existait entre la mer Égée et l'Adriatique, parce qu'on avait retrouvé des poteries dans l'Adriatique qui venait d'Asie mineure. Alors il imaginait un grand conduit souterrain qui circulait entre les deux mers. Et il a fallu que Aristote arrive et siffle la fin de la partie pour parler d'eau vaseuse qui compressait tout par leur masse. Et là apparaît la notion d'immutabilité des abysses, de stabilisme, qui va perdurer pendant très 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 longtemps, pratiquement jusqu'au début du XXe.
Et en même temps, on sait qu'avec le Moyen-Âge et la Renaissance, on reconsidère autrement les eaux profondes.
À la Renaissance, les clercs se posent des questions. Ils disent, voilà, on a des fleuves qui arrivent dans les océans ne débordent pas. Comment se fait-ce ?
Oui.
Et donc, on imagine des transferts d'eau, dont certains partent carrément par l'intérieur de la Terre. Un jésuite qui s'appelle Kircher il va imaginer un grand siphon qui passe par le cœur de la Terre et qui déverse les eaux de l'océan austral, qui les réapprovisionne vers l'océan arctique.
Et on va imaginer aussi ces mers comme à l'origine du vivant sur la Terre. Je vous propose d'écouter un autre extrait de texte, le texte de Benoît de Maillet, le fameux Téliamède. Et ce Benoît de Maillet, qui était, je rappelle, diplomate français, érudit en sciences naturelles, consul de France en Égypte de 1692 à 1708.
En l'année 1720, le 8 août, jour de jeudi, les vents variables étant à l'est-sud-est, à 28 ou 30 brasses d'eau, 7 navires en vue mouillant sur le banc de Terre-Neuve, il parut sous les 10 heures du matin à bord d'un vaisseau français nommé la Marie de Grâce, commandé par Olivier Morin, un homme marin, qui premièrement se montra à bâbord sous le teut ou baril du contremaître appelé Guillaume l'Aumône. Aussitôt celui-ci prit une gaffe pour le tirer à bord, mais le capitaine l'en empêcha de crainte qu'il ne l'entraînât avec lui. Pour cette raison, il lui donna seulement un coup sur le dos, sans le piquer. Lorsque le monstre se sentit frappé, il prêta le visage au contremaître comme un homme en colère qui eût voulu faire un appel. Malgré cela, il ne laissa pas de passer dans les lignes en nageant pour faire le tour du vaisseau. quand il fut derrière, il prit le gouvernail avec ses deux mains, ce qui obligea l'équipage de mettre deux palans, de peur qu'il ne fît quelque dommage. Il revint ensuite à bord très proche et s'éleva hors de l'eau jusqu'au nombril, en sorte que tout l'équipage remarqua parfaitement qu'il avait le sein aussi plein que celui d'aucune fille ou femme. Il se renversa ensuite sur le dos et prit avec ses mains ses parties naturelles d'une grosseur et d'une figure pareille à celle d'un cheval. Après quoi, il fit de nouveau le tour du navire et prit encore le gouvernail. De là, nageant lentement, il s'éleva hors de l'eau et, tournant le dos, il fit ses immondices tout contre le vaisseau. Après cela, il s'éloigna de sorte qu'on le perdit de vue.
Christophe Migeon, ce texte, en fait, c'est vraiment la description de ce fameux homme aquatique, monstre parmi d'autres monstres d'ailleurs, qui convoque comme ça l'imaginaire, et en même temps on retrouve des témoignages, je crois, au fil des siècles, de marins qui ont cru peut-être apercevoir ce genre de créatures.
Mais il faut se rappeler ce que vous disiez tout à l'heure, il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur l'eau. Et aller sur l'eau, depuis l'Antiquité, c'est très stressant, notamment quand on est marin, on guette le moindre virement de temps, on guette les hauts fonds, et entre deux vagues, il est possible de voir un phoque, par exemple, avec ses moustaches, qui peut passer pour un évêque, un poisson évêque, ou on peut parler d'homme aquatique, un lamantin, une femelle à la poitrine bien gonflée pourrait effectivement passer pour une sirène. Et donc les marins, le soir, de retour aux tavernes, autour d'une chopine, se racontaient ces histoires à moitié ivres, et parfois aussi histoire d'en mettre plein la vue aux copains.
Daniel Reiss, sur ce thème-là des monstres, il y a le serpent de mer, le calamar géant, l'homme aquatique, que l'on retrouve, comme ça vous le disiez, vous, sur les cartes de la Renaissance, beaucoup au XVIe et XVIIe siècle. Donc tout cet imaginaire, et qui à un moment va quand même être confronté aussi à la science, qui va chercher à en savoir un petit peu plus.
Oui, absolument, mais on cherche encore maintenant d'ailleurs à retrouver si ces monstres marins ont pu exister ou existent encore. Le calamar géant, on l'a pêché depuis, on le connaît. Il a été pêché, c'est un animal qui mesure plus de 17 mètres, si vous voulez. Mais pendant très longtemps, effectivement, on a pensé que le fond des océans avait servi de refuge lors des grands bouleversements sur la surface de la Terre, lors de la disparition de toutes les faunes à la fin du tertiaire ou du secondaire, et que les fonds des océans avaient servi de refuge à des espèces de l'époque des dinosaures qui s'étaient réfugiées au fond des océans dans une atmosphère ou dans un milieu qui n'a pas tellement changé depuis, et qu'on pourrait encore trouver actuellement de ces animaux réfugiés depuis l'ère secondaire.
Et en même temps, Daniel Reiss, nos connaissances du vivant qui peuple ces fonds marins est encore très parcellaire. Dites-nous aujourd'hui, par exemple, quels sont les fonds les plus profonds connus à ce jour ?
Des fosses, on en trouve dans cette ceinture du Pacifique, avec des fosses qui font entre 11 000 et 5, 6, 7 000 mètres. Dans l'Atlantique, la fosse de Porto Rico, par exemple, qui mesure plus de 9 000 mètres. Et c'est à peu près tout, quoi. Mais elles sont relativement peu fréquentes. Les fosses, ce qu'on appelle l'étage Adal, au-delà de 6 000 mètres, on ne représente que 3% de la surface des océans.
Et alors aujourd'hui, on sait aussi que la topographie de ces fonds marins est très accidentée, qu'on peut avoir des montagnes, des volcans, donc les fosses sous la mer.
Oui, et ça, c'est assez récent. La première carte de la chaîne sous-marine, ce qu'on appelle la Grande Dorsale, qui parcourt tout le fond des océans sur 60 000 kilomètres, la carte a été établie en 1977. On a commencé à en voir les premières ébauches à partir de 1968-1967. C'est une jeune cartographe américaine, Mary Sharp, qui avait dessiné cette première carte. Et jusqu'en 1970, à peu près, on était persuadé que le fond des océans, la partie Adal, ce qu'on appelle l'espace Adal au-delà de 6 000 mètres, était une immense plaine abyssal, totalement vide, absolument un grand désert, et ce n'est que relativement récemment, donc ça fait une trentaine d'années maintenant, qu'on sait qu'il y a au centre des océans, et parfois même en bordure, des reliefs sous-marins assez importants qui sont formés par la Grande Dorsale, et sur laquelle reposent toutes nos connaissances actuelles d'ailleurs.
Exactement. Alors que, comme vous le disiez, hein, finalement, ces connaissances, elles sont assez récentes. Mais en même temps, ces sujets, on nourrit une énorme littérature. Hein, Edgar Poe, Jules Verne. Prenons-en un petit peu la mesure avec un nouvel extrait du film de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, retrouvé dans les fonds de l'INA et puis suivi d'une lecture de texte.
Oh, l'épouvantable bête!
Il applique ses ventouses sur la vitre.
Ce monstre a 250 ventouses disposées sur la face interne de ses tentacules.
Qu'est-ce qui se passe? Nous avons encore touché?
Non, non, cette fois nous flottons.
Enfin, nous ne nous arrêtons tout de même pas exprès pour regarder ces monstres hideux. Ah, bonjour, capitaine.
Bonjour, messieurs.
Une fameuse collection de poulpes, il me semble.
En effet. Et nous allons être obligés de les combattre corps à corps. Car les mandibules coriaces de l'un de ces calmars se sont engagées dans les branches de l'hélice, ce qui nous empêche d'avancer.
Et alors?
Alors, nous allons remonter à la surface et massacrer toute cette vermine.
Le Nautilus était alors revenu à la surface des flots. Un des marins, placé sur les derniers échelons, dévissait les boulons du panneau. Mais les écrous étaient à peine dégagés que le panneau se releva avec une violence extrême, évidemment tirée par la ventouse d'un bras de poulpe. Aussitôt, un de ses longs bras se glissa comme un serpent par l'ouverture, et 20 autres s'agitèrent au-dessus. D'un coup de hache, le capitaine Nemo coupa ce formidable tentacule qui glissa sur les échelons en se tordant. Au moment où nous nous pressions les uns sur les autres pour atteindre la plateforme, deux autres bras, cinglant l'air, s'abattirent sur le marin placé devant le capitaine Nemo et l'enlevèrent avec une violence irrésistible. Le capitaine Nemo poussa un cri et s'élança au dehors. Nous nous étions précipités à sa suite. Quelle scène ! Le malheureux, saisi par le tentacule et collé à ses ventouses, était balancé dans l'air aux caprices de cette énorme trompe. Il râlait, il étouffait, il criait « À moi! À moi !» Ces mots, prononcés en français, me causèrent une profonde stupeur. J'avais donc un compatriote à bord, plusieurs peut-être. Cet appel déchirant, je l'entendrai toute ma vie.
Christophe Mijon, on a entendu un extrait donc du film hein, 20 milieux sous les mers et un extrait justement du livre de Jules Verne. Ce monde peuplé de créatures gigantesques, imaginaires, est devenu réalité. Vous avez retrouvé des traces de ces témoignages. C'est finalement ce calamar géant que d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, le 13 janvier 2003, Olivier de Kersauzon a rencontré, on peut dire, au large de Gibraltar. Son trimaran Geronimo a été mis à mal par un calamar géant. Et c'était d'ailleurs symboliquement pour le trophée Jules Verne. Mais vous le retrouvez dans des témoignages plus anciens, au XVIIIe siècle, le fameux Kraken, c'est ça?
Ouais, le Kraken a longtemps passé pour un canular, un gros canular. En fait, on retrouve la trace des premiers calmars géants échoués en Islande en 1639. Donc ça remonte à longtemps. Le problème, c'est qu'il y a un Français qui s'appelle Pierre Denis de Montfort qui s'en est mêlé. C'était un malacologue, donc un spécialiste des mollusques, très brillant. On lui avait confié le chapitre sur les mollusques de la suite à Buffon, donc qui synthétisait à l'époque toutes les connaissances sur le sujet en sciences naturelles. Et il a fait une enquête auprès de baleiniers américains qui étaient à Dunkerque, que la France avait invité pour impulser l'industrie baleinière. Et ces capitaines américains lui ont parlé de cachalots qui régurgitaient des bras énormes de calmars, des bras aussi gros que des mâts de bateau. Et à partir de là, il a parlé donc de kraken, il a parlé donc de calmar géant, il appelait ça un poulpe d'ailleurs. À l'époque, on faisait la confusion poulpe-calmar dans le langage commun. Et ce qui a vraiment véritablement ruiné sa réputation, c'est qu'il a voulu emporter dans son élan, expliquer la disparition d'une dizaine de bateaux de l'armée de la Royal Navy britannique par l'attaque d'un calmar géant. Or, il y a eu un survivant à cette disparition, à ce naufrage, et en fait c'était simplement un ouragan qui est passé par là, et donc le calmar géant est passé pour une énorme fable pendant des dizaines d'années.
Alors qu'il a une vraie existence, Daniel Reiss. Ouais.
Jules Verne avait quand même ça de particulier, c'est qu'il connaissait parfaitement les résultats scientifiques de son époque. Et ainsi, même si quand ses résultats étaient faux d'ailleurs, c'est ainsi qu'il fait plonger son Nautilus, la plongée la plus profonde à 15 000 mètres de profondeur, sur une profondeur qui effectivement n'existait pas, mais qui à l'époque où Jules Verne a écrit son roman, était un sondage qui avait été fait par une frégate américaine, le Congress, qui avait trouvé une profondeur de 15 000 mètres, à l'endroit d'ailleurs où près de Tristan da Cunha, dans l'Atlantique Sud, où Jules Verne fait plonger son Nautilus. Ce n'est que quelques années plus, près de 20 ans plus tard, qu'on a découvert que cette profondeur n'existait pas. Mais elle collait à la réalité de l'époque.
Et on voit aussi qu'on continue à découvrir des nouvelles espèces de notre côté avec les techniques d'aujourd'hui. Vous rappelez, Christophe Mijon, le travail du professeur japonais Kubodera en 2004 et en 2012, qui a fait une étude avec un petit sous-marin au large des îles Ogasawara.
Oui, c'est dans...
En tout cas, dans le Pacifique Nord.
C'est au sud-est du Japon et les images de calmar géant in situ étaient le dernier graal de l'image sous-marine qui restait. Enfin, il y en a encore un autre, puisque au-delà du calmar géant, qu'on s'est parfaitement identifié, qui s'appelle Architeuthis dux. À un moment, on imaginait une vingtaine d'espèces, tellement les spécimens récupérés étaient déformés, mais une analyse ADN a montré il y a quelques années qu'il s'agit d'une seule et même espèce, Architeuthis dux. Mais il y a un autre calmar qu'on a découvert, entre guillemets, on a découvert que ses bras à l'intérieur d'un estomac de cachalot en 1925, et on a pêché le premier spécimen dans les années 80 au large de l'Antarctique, c'est le calmar colossal. Lui, il est beaucoup plus trapu, plus dense, apparemment plus agressif, beaucoup plus costaud. On en a pêché un individu qui avait un œil de 27 cm de diamètre, le plus grand œil du règne animal.
Ça fait réfléchir, hein ?
Surtout qu'il a, à l'intérieur des ventouses, une petite griffe.
Ah oui, encore moins sympathique, oui, d'accord.
À éviter.
Et le 21e siècle, alors, peut voir des espèces colossales comme ça, Daniel Reiss, passer du mythe à la réalité ?
Non, il est certain qu'on peut encore se demander s'il n'y a pas des zones entières, des océans, qui sont encore totalement inconnues. C'est vrai pour les grands fonds, sur le fond lui-même, si vous voulez, dont on n'a exploré qu'une toute petite partie jusqu'à présent. On a trouvé une fois un véritable fossile vivant. Je vous dis que très longtemps, on a pensé que les abysses avaient pu servir de refuge aux espèces disparues depuis très longtemps sur la surface de la Terre. Et la recherche des fossiles vivants a été un des motifs qui a permis de lancer toutes les grandes campagnes de recherche qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Et dans toutes ces campagnes, on a trouvé un exemplaire d'un fossile vivant, qui était un tout petit mollusque qui mesurait 1 ou 2 centimètres de diamètre, c'est tout, mais qui était un véritable fossile qu'on ne connaissait qu'à l'état de fossile. On n'a pas trouvé, par contre, de grands fossiles, de dinosaures fossiles ou d'espèces de ce genre vivant encore dans le fond des océans.
Alors, comment va évoluer la connaissance des grands fonds au fil du temps? Eh bien, l'homme va chercher, bien sûr, à imaginer des structures qui vont lui permettre d'aller scruter les fonds marins. Je vous propose une archive INA étonnante et même amusante, vous allez voir. C'est une émission intitulée « Les débuts d'un scaphandrier novice ». Et ce scaphandrier novice, c'était le journaliste Georges Join pour la radiodiffusion française. C'était le 7 mars 1946.
Ça y est, maintenant, je suis dans l'eau, j'ai les mains glacées, par exemple. L'impression que je sens, c'est surtout cette eau est glaciale. Ah, ça y est, j'ai touché la vase du fond. Je suis dans l'eau. Et même dans la vase, je remue assez mal mes jambes. Écoutez, je vais remonter un petit peu. Je reviens vers la lumière parce que il y a un petit incident technique. J'ai l'eau qui est en train de me rentrer par la manche gauche. Me voici ressorti. Ils n'ont pas cessé de m'envoyer de l'air. Il n'y a qu'une chose qui m'a gêné, je vous le dis, qui m'a fait remonter. Le technicien en ce moment qui est en train de se tordre, il me regarde, je le vois à travers le hublot, il me regarde avec un air extrêmement ironique. Moi je ressors de là à cause, je vous le répète, de cette eau qui entrait par ma manche gauche, par le fil du micro.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Et voilà le témoignage de Georges Join. Vous voyez jusqu'où peut aller l'envie de faire des expériences scientifiques du côté des journalistes. En tout cas, c'est cette question, bien sûr, Daniel Reiss, à quel moment est-ce que les hommes ont commencé à imaginer les structures permettant d'aller dans ces grands fonds. Je crois que dès Aristote, on parle d'un principe de cloche.
Oui, bien sûr, des Aristote, même l'histoire raconte que Alexandre le Grand lui-même était descendu dans une cloche sous-marine de cette sorte. Mais c'était des engins qui ne permettaient pas de dépasser 10, 20 mètres au maximum. Et toutes les cloches de plongeurs qui ont existé par la suite jusqu'au 19e siècle étaient des engins qui ne permettaient pas de descendre au-delà de 20 mètres. Donc la conquête des grands fonds est beaucoup plus récente. Elle remonte à la dernière guerre mondiale. C'est vraiment le moment où, juste avant, en 35-36, qu'on a commencé à pénétrer au-delà de 100 mètres de profondeur.
Et c'est vrai qu'on se rend compte, au fil des témoignages, soit écrits, soit sonores, ensuite du XXe siècle, que ces premiers scaphandres imaginés, en tout cas les premières techniques, étaient peu confortables. En général, les premiers scaphandres étaient de véritables tortures. Christophe Mijon.
Il fallait vraiment être très bien dans sa tête, très bien dans son corps pour rentrer
pour
là-dedans
tenter l'aventure.
Et remonter. Pour vous donner une idée, un casque de pied lourd, ce qu'on appelle ça, c'est le terme utilisé, le casque en cuivre pèse environ une quinzaine de kilos. Devant, vous avez un poids, un plastron qui fait 18 kilos, la même chose dans le dos. Et au pied, pour pouvoir marcher, vous avez à peu près 7-8 kilos chacun. Donc vous avez au total environ 60 kilos. Sans compter après, il faut descendre, il faut remonter, il faut marcher sur le fond, faire son boulot.
Tenter de respirer normalement.
Alors, il y a eu plusieurs types de scaphandres, parfois certains, comme, rappelez-vous, Tintin, le trésor de Rackham le Rouge, oui. Et les Dupont qui pompent pour envoyer de l'air à Tintin qui est en dessous. Bah, pendant très longtemps, c'était le modèle de Zibe, qui est un Allemand qui avait immigré en Angleterre, qui avait découvert ce scaphandre. Et puis après,
qui l'homme, était du 19e siècle.
Voilà, hein, et le scaphandre, après les scaphandriers ont emporté leurs réserves d'air avec eux, donc. Mais bon.
Et puis il a fallu aussi avancer scientifiquement sur le problème de l'air à renouveler et de la pression à gérer en descente. Hein. Il y a eu quand même de nombreux morts.
Il y a eu ce qu'on appelle d'abord le mal des caissons. Ce qu'on appelait le mal des caissons, c'est-à-dire que les caissons, c'est une tourelle qu'on applique sur le fond, faite vide, et les travailleurs, les ouvriers travaillent au fond à pression ambiante. Et ensuite sont remontés. Et donc on s'est aperçu en les remontant que les pauvres gars étaient soit sur le champ, soit un peu après, paralysés, ou parfois, dans le pire des cas, mouraient. On a appris plus tard qu'il s'agissait en fait de microbulles qui grossissaient et provoquaient des paralysies ou des embolies.
Alors Daniel Reiss, donc il y a ces premiers scaphandres qu'on essaie de mettre au point avant le XXe siècle, et puis dans les années aussi des Lumières, les scientifiques commencent, pour le coup, on disait que jusque-là ils étaient un petit peu extérieurs à cette aventure de l'exploration des abysses, mais ils commencent à s'embarquer pour des expéditions autour du monde, notamment on peut penser à la corvette Challenger sous l'égide de la Royal Society qui a fait le tour du monde entre décembre 1872 et mai 1876, mais les scientifiques vont commencer à prendre part à cette étude des océans.
Oui, mais alors le Challenger, ça a été une énorme campagne qui a lancé vraiment l'océanographie actuelle. Et près d'un siècle ensuite, on dépouillait encore du matériel du Challenger. Moi, j'ai travaillé personnellement sur des petits animaux qui avaient été récoltés par le Challenger près d'un siècle auparavant. Mais c'était du travail qui était fait depuis la surface avec des engins qu'on descendait sur le fond, des dragues, des chaluts qu'on descendait sur le fond, sans jamais aller voir en dessous ce qui se passait. On ne savait pas ce qui se passait. Il faut attendre à peu près la deuxième guerre mondiale pour savoir ce qui se passe un petit peu plus bas. Et pendant des années, toutes les grandes campagnes, jusqu'à celle du prince de Monaco dans les années 20, 30, 40, étaient des campagnes qui étaient réalisé, certes, tout autour des océans. Le Challenger a fait 3 fois le tour du monde dans cette campagne. Il a découvert des faunes jusqu'à 7000 mètres de profondeur. Mais c'était toujours des prélèvements qui étaient faits depuis la surface. Et jusqu'à ce temps-là, on n'y était jamais descendu et on ne savait pas à quoi ça ressemblait.
Alors Daniel Reiss, on arrive à mi-parcours de notre émission. On vous a demandé aux uns aux autres un petit peu un choix musical. Et vous avez choisi les Beatles, Yellow Submarine. Expliquez-nous pourquoi.
Oh, simplement parce que les premiers engins avec lesquels nous avons plongé dans les années 60, 70, étaient des petits sous-marins jaunes. Et ça a été un peu notre marque de fabrique. C'était un petit peu notre hymne. Lorsque nous partions plonger, on chantait le Yellow Submarine.
Donc ça vous a accompagné pendant des années, hein ?
Absolument.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green.
Yeah.
Yellow Submarine des Beatles, le choix de Daniel Reiss pour cette émission de la Marche des Sciences sur France Culture, donc en compagnie de Christophe Mijon, auteur du livre paru chez Paulsen, au titre donc Abyss, une histoire des grands fonds, et puis avec l'océanographe Daniel Reiss, ancien scientifique de l'Ifremer, qui a notamment pris part à des campagnes de recherche sur l'écologie abyssale, et qui est lui aussi auteur d'un livre à vous conseiller, Dans la nuit des abysses, paru aux éditions Découverte Gallimard. Et Daniel Reiss est en duplex de nos studios France Bleu Gironde. Alors c'est cette immersion dans le monde du silence que nous vous proposons aujourd'hui, celui des abysses qui suscite depuis l'Antiquité attraction et répulsion, fascination et angoisse, un monde à peine effleuré. Et tout de suite, la voix de quelqu'un qui a compté dans ce 20e siècle des techniques et de la science, c'est le professeur Picard. Il s'exprimait le 6 mars 1954 pour la radiodiffusion française.
Monsieur le professeur, pouvez-vous me dire ce que c'est qu'un bathyscaphe ?
Vous savez ce qu'est qu'un ballon libre ?
Oui.
Eh bien, un bathyscaphe, c'est un ballon libre avec les petites modifications qu'il faut pour aller dans la mer. Au lieu d'hydrogène, nous avons de l'essence, un liquide plus léger que l'eau, aussi bien qu'on a d'hydrogène, un gaz plus léger que l'air qui porte.
Je comprends.
Nous avons l'enveloppe, au lieu d'être une enveloppe en toile mince, c'est une coque en tôle. Et nous avons la cabine, qui alors elle doit être très solide pour résister à la pression extérieure.
Est-ce que c'est pas justement la pression qui domine toute la construction ?
Ah oui, la pression joue un grand rôle là-dedans. Pensez, la cabine de 2 mètres diamètre intérieur, elle a 9 cm d'épaisseur de paroi d'acier.
Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de soudure ? On a raconté...
Non, il n'y a pas de soudure dans la cabine.
Comment
c'est deux hémisphères posés l'un sur l'autre.
Donc, en somme, le bathyscaphe est un sous-marin, mais un sous-marin pour très grande profondeur.
Christophe Mijon, ce professeur Auguste Picard fait partie véritablement des grands noms qui ont marqué l'histoire des aventuriers des abysses.
Absolument, c'est une des grandes figures. Mais
c'est le professeur Tournesol dans Tintin, non ?
Exactement, puisqu'il habitait Bruxelles dans la même rue qu'Hergé. Hergé habitait la même rue, il n'a pas osé l'aborder pendant longtemps, puisqu'à l'époque, Picard était très connu. C'était un grand savant qui travaillait au départ avec Einstein sur l'étude des rayons cosmiques. Et au départ, c'est ce qu'il a envoyé dans les airs, c'est ce qui lui a donné l'idée de faire une nacelle suspendu à un grand ballon, et il avait battu un record 16 900 mètres, il me semble, dans les années 30. Et suite à ça, c'est là que le hasard fait parfois bien les choses, il a été à la foire de Chicago en 1933, et à côté de son stand, il y avait un autre monsieur qui s'appelle William Beebe, et qui présentait au public une bathysphère, c'est-à-dire une boule de métal creuse à l'intérieur de laquelle, qui était suspendue en fait à un bateau. Et avec cette bathysphère, Beebe avait atteint un an plus tard, la profondeur de 908 mètres avec son collègue Otis Barton.
Alors Auguste Picard va rentrer dans cette course, à l'imagination déjà, et puis à la construction de submersibles capables d'aller scruter les grands fonds. Et il faut aussi rappeler que Christophe Mijon, à une époque, toute cette technique, cette science va avancer parce qu'il y a la guerre froide, et que finalement la guerre froide va même donner un coup d'accélérateur aux recherches parce qu'il y a des enjeux nationaux dans cette aventure.
Après tout un tas de tribulations entre la France et Picard, puisque Picard au départ est associé à un projet qu'on appelait le FNRS-3, qui était donc, on avait repris la nacelle de son premier bathyscaphe, et la marine française avait voulu le développer. Mais il y a eu quelques bisbilles entre les ingénieurs de la marine nationale et Picard, qui était le professeur Tournesol, avec 50 idées à la minute, et qui voulait faire des modifications à tout instant. Et donc Picard avait été reparti de son côté, avait trouvé des financements italiens et suisses, et avait fait le Trieste. Et ce Trieste, donc pendant très longtemps, le FNRS-3 français et le Trieste, a été rentré en compétition pour la plus grande profondeur. Et à un moment, Jacques Picard va chercher des fonds aux États-Unis. Et il tombe au bon moment, puisque là, les Américains viennent de se faire battre à plate couture dans la conquête de l'espace, puisqu'en 57, les Soviétiques envoient un Spoutnik. Un mois plus tard, ils envoient la pauvre petite chienne Laika dans l'espace, qui ne reviendra pas. Et par la suite, donc, les Américains se disent, tiens, on a loupé pour l'instant la conquête de l'espace, peut-être pourrait-on conquérir les abysses et prendre un peu de longueur d'avance sur les Soviétiques. Et ils vont financer un projet pour aller atteindre le point le plus profond de la croûte terrestre, la fosse des Mariannes, en 1960.
Daniel Reiss, sur ces questions-là, ces grands noms, alors on a cité Auguste, Picard et son fils Jacques, et puis Bib, William Bib, vers 1930 avec sa bathysphère.
Oui, mais bon, moi j'ai eu la chance de connaître le professeur Picard, j'avais 14 ans à l'époque, quand il était à Dakar, avec son premier bathyscaphe, le FNRS 2, et Théodore Monod, qui était à l'époque le directeur de l'Institut français d'Afrique noire, devait plonger avec lui, sa première plongée à 4000 mètres. Et Théodore Monod, qui me connaissait très bien, moi j'étais un gamin à l'époque, m'avait montré le bathyscaphe en me disant, tiens, voilà ce qu'il faut que tu fasses plus tard, et c'est effectivement à cause de ça que j'ai fait, que je suis devenu océanographe. Mmh. Ben, bon, le bathyscaphe de Picard, celui-là, le FNRS 2, n'a pas plongé parce qu'il a eu des problèmes en surface, mais il est à l'origine de tous les trois engins qui ont suivi, le Trieste, le FNRS 3 et l'Archimède. En particulier Trieste et Archimède sont les deux seuls engins qui aient dépassé 9000 mètres. Le Trieste est descendu à 10 916 mètres, l'Archimède a plongé plusieurs fois à plus de 9500 mètres, et depuis, aucun autre appareil n'a pu plonger à une profondeur pareille.
Et vous êtes descendu à combien de mètres, Daniel Reiss?
Moi, je suis descendu beaucoup plus tard dans le Nautil, qui s'est créé beaucoup plus tard.
Il est créé en 1984, je crois.
Oui, le Nautil, c'était après 84, c'était dans les années 88. D'accord. En 84, c'était encore le Cyanac avec lequel on plongeait.
D'accord. Donc, Daniel Reiss, il y a eu le Trieste, l'Archimède, le Cyanac, Alvin, le Nautil, ça, ce sont les noms des submersibles que, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, on met en place, on construit pour justement savoir un peu plus, et avec l'IFREMER qui est partie prenante de ces recherches.
Absolument, ce sont les engins qui ont permis de faire énormément de plongées. Je disais que le bathyscaphe, le Trieste a plongé une fois, l'Archimède a plongé 150 fois, mais seulement 10 fois au-delà de 4000 mètres, alors que les engins actuels, comme le Nautil, le Nautil a plongé plus de 2000 fois, l'Alvin américain a plongé plus de 4000 fois. Ce ne sont plus des aventuriers, maintenant c'est de la routine, la plongée profonde.
Donc c'était une nouvelle quête, une quête de savoir, vous dites, de savoir scientifique, et en même temps, j'ai le sentiment qu'on cherche aussi à mettre la main sur certaines épaves. Alors c'est ce qui caractérise un petit peu cette histoire de la découverte des grands fonds, Daniel Reiss, c'est justement l'appât du gain. Il y a eu, dans les années lumière, l'appât du gain, parce qu'on cherche à récupérer des cargaisons d'or ou d'argent qui sont au fond des mers suite à des naufrages. Mais au XXe siècle, la quête, au-delà de la quête scientifique, quelle est-elle?
Ça a été effectivement la quête de certaines épaves, mais c'était lié à des idées de cinéastes qui voulaient filmer des épaves à grande profondeur, et c'était l'épave du Titanic ou l'épave de certains cuirassés allemands, etc., mais du Bismarck. Mais c'était quand même un but purement pour faire des films, beaucoup plus que pour autre chose que pour la recherche scientifique.
Christophe Mijon, sur ces questions-là, c'est-à-dire ces submersibles qu'on met en place avec véritablement différents objectifs, différents enjeux.
Ouais, je voudrais bien qu'on fasse bien la différence entre les bathyscaphes et les submersibles profonds habités, parce qu'il y a une découverte qui va révolutionner cette industrie, c'est la mousse syntactique. La mousse syntactique, c'est de la résine à l'intérieur de laquelle il y a des petites microbilles, toutes petites, de verre creuses, et qui ont une flottabilité extraordinaire. Pour vous donner un ordre d'idée, un bloc de mousse syntactique de la grosseur d'un réfrigérateur, ça soulève une tonne. Donc à partir de ce moment-là, on n'aura plus besoin de ces immenses flotteurs auxquels étaient suspendus les bathyscaphes, comme un peu des montgolfières ou des ballons à air libre. Ils étaient très peu maniables, ils étaient très mal équipés, les hublots étaient petits, il fallait se foutre à genoux pour essayer d'apercevoir l'extérieur. Avec la mousse syntactique, on va pouvoir faire des submersibles beaucoup plus petits, avec un volume plus réduit et beaucoup plus adapté à l'observation scientifique. Une fois qu'on a été tout au fond, donc en janvier 1960, c'est ce qu'avait prédit Monod, allons tout au fond pour qu'on puisse enfin s'intéresser à la science. Et c'est ce qu'on a fait ensuite avec les submersibles profonds habités, beaucoup plus maniables.
Et là, on se rend compte au XXe siècle que les pays véritablement impliqués, ce sont la France, les États-Unis et les Russes.
Et les Russes, hein, qui sont venus assez tard avec les MIR, ils ont fait une très bonne affaire. Ils avaient commandé un submersible à une entreprise finlandaise, plus un véhicule de sauvetage. Et les Finlandais se sont un peu mélangés les pinceaux dans leurs calculs. Et au final, ils leur ont livré deux submersibles. Et donc, on appelle les MIR. Et ces deux MIR ont fait un travail extraordinaire. Ils ont été sur plein de missions, à la fois scientifiques, mais aussi on a embarqué des caméras à l'intérieur. Et James Cameron, notamment, a filmé plusieurs documentaires et les images de son fameux film Titanic, grâce à ces mires.
Est-ce que ces abysses sont potentiellement en danger ?
On peut le dire, à peine découvertes, déjà souillées, oui, ces abysses sont considérablement... Bon, le tourisme, c'est vraiment anecdotique, hein. Il y a effectivement... On a arrêté de plonger de façon touristique sur le Titanic depuis 3 ans, depuis 2012 pour le centenaire. Bon, en revanche, on a arrêté également, il y a un moratoire sur pour jeter les déchets nucléaires, les déchets radioactifs. On a fait ça quand même en France jusqu'en 1982, au large du golfe de Gascogne. Il y a des choses pas très claires non plus du côté de l'océan Arctique chez les Russes. Mais bon, aujourd'hui...
Tout ça repose dans les grands fonds.
L'homme a eu des supers idées. On a pensé faire des fûts en forme d'obus et les lâcher de la surface pour qu'ils s'enfoncent dans les sédiments. Les Américains, à un moment, pensaient les mettre près des fosses océaniques, des fosses de subduction. Lorsqu'une croûte, une plaque océanique s'enfonce sous une plaque continentale, ils espéraient qu'elle entraîne avec elle les fûts radioactifs. Bon, ils ne l'ont pas fait, finalement. Mais on a fait des mesures près de ces sites, et apparemment, les mesures donnent des taux normaux. Bon, apparemment, voilà. La masse océane est telle que ça réussit. Le pouvoir de dilution est encore phénoménal. En revanche, il y a des débris plastiques à tire-larigot. On a, sur les 300 millions de tonnes de plastique qui sont produits chaque année, il y en a 10% au moins qui finissent dans les mers chaque année.
Donc les grands fonds à préserver, hein, c'est à souhaiter peut-être pour 2016 et après, on peut le dire comme ça.
2016 et après, ce qui est étonnant, c'est que on a parlé de la COP21 qui vient de rendre ses résultats il y a peu de temps. Cette COP21 n'avait au départ pas du tout pris en compte les océans, qui sont quand même le gros régulateur thermique de la planète.
Bon, ça a été rattrapé. Il y a un peu d'espoir peut-être. Allez, on va dire ça. Merci Christophe Mijon. Je rappelle le titre de votre livre, Abyss, une histoire des grands fonds, paru chez Paulsen. Et merci à vous Daniel Reiss.
Je vous en prie.
Et je rappelle le titre de votre livre également, Dans la nuit des abysses, paru aux éditions Découverte Gallimard. Et puis j'en profite pour donner un petit conseil lecture aussi pour ceux qui s'intéressent à ces bateaux qui ont découvert le monde. Toute l'histoire de grandes explorations et de grandes découvertes, c'est chez Glénat, un livre de Jean-Benoît Héron. Et puis merci aussi à Thibaut de Montalembert qui nous a fait revivre des textes d'anthologie. Et on poursuit l'aventure, ne nous quittez pas, on poursuit avec... justement un beau projet pour demain.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, et j'ai le plaisir de recevoir l'explorateur Jean-Louis Etienne pour cette dernière émission de l'année et à l'aube d'une nouvelle aventure préparée depuis des années pour aller explorer l'océan Austral. Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes médecin, aventurier des mers et des pôles, le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Vous avez aussi fait la traversée de l'Antarctique en 1989. Vous aviez connu avant des grands moments sur les océans en 1976 avec la goélette Bel Espoir hein, du Père Jaouen, puis l'année suivante avec Éric Tabarly sur le Penduic 6.
Oui.
Et aujourd'hui, avec Polarpod, vous allez renouer avec la mer et l'océan. Alors, dites-nous, votre ambition cette fois-ci, c'est quoi ?
Alors, l'ambition, c'était de trouver un moyen, un navire particulier, adapté à l'exploration de l'océan Austral. L'océan Austral, c'est l'océan qui entoure l'Antarctique, que les marins appellent les 50e, 40e, 50e hurlants, sont ces latitudes-là. Et toutes les communications sur cet océan se terminent toujours pareil. On a besoin de mesures in situ. On a besoin donc de l'homme, malgré les satellites, malgré les animaux instrumentés, malgré les balises argot qui sont automatiques. On a encore besoin de l'homme. Et donc la question, c'était quel type de bateau on peut trouver pour séjourner dans des bonnes conditions de confort, de sécurité sur cet océan que, bien sûr, c'est un océan agité et loin de tout. Et donc, on a dessiné, avec un bureau d'études de l'Orient, Ship ST, on a dessiné un grand flotteur, en fait, 80 mètres sous l'eau, et puis on habite dans la partie émergée, à une quinzaine de mètres au-dessus de l'océan.
Et qui pèse 720 tonnes, hein, c'est toujours le cas ?
Il s'est alourdi un peu. Ah. C'est un navire, hein, c'est un vrai navire, donc inscrit maritime, qui doit être certifié par le bureau Veritas. Et donc, on est catégorisé oil and gas, ça veut dire qu'on a les mêmes contraintes que les structures pétrolières. Et donc... Ça a considérablement alourdi la machine en termes d'échantillonnage, etc. Et donc, on pèse près de 1000 tonnes en charge aujourd'hui avec un lest de 150 tonnes. Pour qu'on comprenne, si vous voulez être stable en mer, il ne faut pas se poser sur la surface. Les bateaux sont posés sur la surface, vous voyez. Donc, ils bougent avec les vagues. Donc, si vous mettez un tube très long qui descend à 80 mètres sous l'eau, donc toute cette partie qui est sous l'eau est profonde, en fait, elle est dans des eaux relativement stables. Et donc, le principe, c'est d'être piégé, d'être pris dans des eaux beaucoup plus stables que la surface, qui permet d'avoir un bateau confortable.
Et écologiquement propre, hein, parce que j'ai vu que finalement l'alimentation en énergie électrique était produite par 4 éoliennes.
Oui, ce sont 4 éoliennes de 3,2 kg. On essaye d'exploiter la houle aussi, parce qu'en fait, nous, on est planté dans la mer, si vous voulez, au sens où c'est la houle qui nous monte dessus et qui descend. Et donc, ces mouvements, on essaye de trouver une façon d'utiliser aussi l'énergie de la houle. On recyclera tous nos déchets. Donc, on est vraiment, on peut dire qu'on est une campagne zéro émission. Dans la mesure où vous l'avez dit, dont l'électricité est produite par 4 éoliennes, on est très très bien isolé. On a une isolation thermique avec des panneaux sous vide, en fait c'était top.
Mais surtout dans ce milieu hostile quand même.
Dans ce milieu hostile.
Oui.
Et puis notre moteur principal, c'est le courant.
Alors il faut préciser que vous partez étudier l'océan Austral. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous avancer une date déjà ou pas? Ça a été repoussé, hein, ça devait être
oui,
en 2014.
Oui, c'est repoussé parce qu'en fait, le projet s'enrichit. C'est un projet où il y a des contraintes, quand même des contraintes technologiques. Là, on est au point aujourd'hui. On a fait des essais sur des maquettes au bassin des Carènes à Brest, à l'école centrale de Nantes. Donc on a vraiment aujourd'hui un outil qui est totalement adapté, qui a été étudié. Donc ça a pris un petit peu plus de temps. Le programme scientifique est devenu énorme. Il y a 120 laboratoires qui sont impliqués parce que ça n'a jamais été fait. On n'a jamais eu la possibilité de rester longtemps sur cet océan. Et ce qui intéresse les scientifiques, c'est de faire de la mesure sur la durée. Et donc le tour va durer 3 ans. Donc c'est une richesse pour la communauté scientifique.
Donc c'est un voyage de 3 ans, vous dites, parce que vous vous laissez dériver?
On se laisse dériver, c'est le courant qui nous emporte, oui. Le courant circumpolaire. Alors, Météo France et Mercator Océan ont fait 2 simulations et donnent entre 2 ans et demi, 3 ans, le temps qu'il faut avec le courant pour faire le... Mais c'est ça la valeur ajoutée du projet, c'est qu'on réside en permanence sur cet océan qui est assez mal connu encore.
Donc, étudier l'océan Austral qui encercle l'Antarctique et qui est un vrai puits de CO2 parce que vous partez avec des ambitions scientifiques, on l'aura compris, hein, comme vous êtes suivi par de nombreux laboratoires, il faut mesurer les échanges. Et donc, mieux comprendre le rôle de cet océan dans l'équilibre climatique. Alors dites-nous concrètement, Jean-Louis Etienne, quel type d'études vous allez faire pendant ces années-là?
Alors, de toutes les lettres d'intérêt que nous avons reçues, beaucoup de France, bien sûr, des États-Unis, d'Afrique du Sud, d'Australie, donc 3 choses ont émergé. D'une part, vous venez de le dire, les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Les eaux froides sont des puits de carbone, c'est-à-dire le gaz carbonique que l'on émet en excès se dissout beaucoup mieux dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Donc c'est le principal puits de carbone océanique de la planète dont on connaît mal la performance. Et cette mesure va alimenter les modèles climatiques, si vous voulez. Ça, c'est la première chose, échange d'atmosphère-océan, notamment le gaz carbonique. Deuxièmement, à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. Et donc on va mettre des hydrophones, c'est-à-dire des micros sous l'eau et on écoute. Et en fait, par écoute, on va faire un inventaire de la faune. Parce que chaque espèce animale a une signature sonore, le krill, l'orque, etc. Le krill, ça fait clic, 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 comme ça, des petits cliquetis. Vous avez l'éléphant de mer qui est beaucoup plus aigu, c'est des ouh, des choses comme ça. Et donc on écoute, et en écoutant en permanence, jour et nuit, qu'il y ait du brouillard ou pas, donc on fait de l'inventaire de faune. Ça c'est la deuxième chose par l'acoustique. Et la troisième, c'est la validation des mesures satellites. Les satellites sont les principaux observateurs de la Terre aujourd'hui. L'avantage aussi des satellites, c'est qu'ils passent et ils repassent sans arrêt sur les mêmes zones. Et donc ça permet de remonter de la mesure et puis l'évolution des mesures. Et tous les satellites ont besoin d'avoir ce qu'ils appellent le ground truth, la vérité terrain. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un au sol pour dire voilà ce qu'il y a à l'instant T où le satellite fait cette mesure. Ça permet de calibrer la mesure satellite. Ça, ce sont les 3 domaines d'études que nous allons faire.
Majeur, parce qu'à côté, j'ai lu aussi que vous alliez étudier la dynamique des vagues, collecter des planctons pour évaluer aussi l'impact de l'acidification.
Ça, bien sûr.
Observer la faune marine, les baleines, les oiseaux de mer. Enfin, le programme est beaucoup plus large que...
Oui, par exemple, dans le domaine échange atmosphère-océan, il y a les aérosols, bien sûr. Et quand on dit échange atmosphère-océan dans le secteur L'absorption du gaz carbonique, vous l'avez très bien signalé, c'est acidification de l'océan, c'est la conséquence de l'excès d'assimilation de l'océan par le CO2. Il y a autre truc aussi, on va essayer de capter le calamar géant, de faire des images avec une fibre optique qui va descendre très profond, avec LED. Le LED, c'est une petite lumière qui simule le poisson lanterne sur lequel on met une caméra. Et donc, dans la nacelle tout à fait là-haut, on aura des répétiteurs. Et si jamais, par chance, on voit un calamar géant qui vient nous manger cette LED, tac, on appuie, on enregistre et on ramènera l'image que l'on cherche tous, c'est celle du calamar géant.
C'est un projet à la Jules Verne, Jean-Louis Etienne.
Ah, c'est Jules Verne. Jules Verne, dans tous ses domaines, déjà dans le vaisseau, c'est un navire vertical, si vous voulez. C'est quelque chose qui est que Jules Verne, ça aurait inspiré Jules Verne. Et Jules Verne, en retour, bien sûr, nous a inspiré tout ça. Le calamar géant, bien sûr, c'est Jules Verne. Et puis, c'est une aventure humaine extraordinaire. Parce qu'il va falloir rester là, à la dérive, sur cet océan. Ça va durer 3 ans, mais les techniciens, les ingénieurs qui font de l'acquisition de données seront relayés tous les 2 mois. Donc là aussi, il y a une aventure, c'est-à-dire aller relayer ces gens tous les 2 mois, à partir du point le plus proche. Ça peut être Cape Town, ça peut être Perth en Australie ou autre. Donc c'est une aventure globale. Et d'après tout ce que l'on entend dans le milieu scientifique, c'est le futur observatoire de l'océan austral. Il va y rester. Il a été construit pour ça. Et donc, les scientifiques ont à l'avenir un gisement de mesures intéressantes sur cet océan qui joue un rôle important, dont vous l'avez signalé, gaz carbonique, climat, mais aussi, c'est un océan en mouvement. Il unit les 3 océans. C'est une courroie de transmission entre l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Et donc, il joue un rôle essentiel sur le moteur de la circulation océanique mondiale. Donc, c'est un élément qui charrie toutes les masses d'eau de ces 3 océans. Et donc, on sait très bien que l'élément stabilisateur du climat, c'est bien sûr la circulation océanique.
Combien d'hommes embarqués, même si vous nous avez expliqué qu'il y aura un turnover tous les 2 mois, mais vous allez rester de bout en bout, hein ?
Peut-être pas les 3 ans. Je vais faire le début, je vais faire pas mal de rotations, parce que je travaille sur que cette fusée existe, mais aussi je veux m'envoler avec, si vous voulez.
D'accord.
Il y aura une petite population, il y a 3 marins professionnels de la marine marchande, et ensuite 4 ingénieurs ou techniciens, ce sont des gens qui ont la capacité à faire marcher tous ces instruments qui seront à bord. Ça s'apparente un peu à la station internationale qui tourne autour de la Terre, nous on va tourner en orbite autour de l'Antarctique. Et le départ, si tout va bien, c'est des essais en 2017, fin 2017, dans le golfe de Gascogne, parce qu'il faut tester tout ça sur un océan qui est en mouvement. 2018 sera le départ de la circumnavigation autour de l'Antarctique.
Alors, on arrive au terme de cet échange, Jean-Louis Etienne, mais vous êtes un homme très impliqué, on le sait, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et vous savez aussi qu'il faut convaincre que l'on peut tous agir, tous à notre niveau. Alors, avec cette place que vous occupez aussi, cette image de l'homme souvent seul dans les expéditions face à cette nature immense et encore inconnue, vous avez le temps, on suppose, de penser aux autres. Alors, vos voeux, Jean-Louis Etienne, pour nous, pour la planète, pour les océans en 2016.
Écoutez, on vient de terminer une année formidable avec la COP21, l'accord de Paris. Il ne résout pas tout, mais il a fixé un cap. Et ce ne sont pas les diplomates qui ont trouvé cet accord universel, on va dire, qui sont aux manettes pour que les choses changent. C'est ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est nous dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie industrielle, dans son travail, dans sa vie politique pour les gens qui sont... Voilà. Et c'est la somme des actions de chacun d'entre nous. Les industriels qui prennent leur part aujourd'hui, même les banquiers qui décident de faire des orientations d'investissement sur des choses qui sont des énergies non carbonées. Donc on voit que le mouvement est enclenché à l'échelle planétaire et ce dont on attendait de l'accord de Paris, c'était un élan. Ces 195 chefs d'État maintenant qui s'approprient cette image. Oui, nous sommes tous des acteurs du terrain. Nous reconnaissons que l'homme est un acteur du changement climatique et nous allons revenir dans nos pays, encourager l'ensemble des parties prenantes personnelles et industrielles, financières, de manière à trouver une solution avec cet objectif qui est très ambitieux. 1,5 degré, difficile à atteindre. Mais pour atteindre le sommet, il faut se fixer des étapes. Et les étapes sont révisables. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde va être monté du doigt aujourd'hui s'il ne fait rien, parce qu'il y a suffisamment de publics, de sociétés civiles, des ONG, etc., qui sont là pour vérifier le travail.
Donc, bonne année 2016 à ce mouvement collectif planétaire, c'est ça ?
Oui, oui, c'est ça.
Et bonne année à vous, hein, Jean-Louis-Étienne.
Merci à vous tous aussi.
Merci à vous. Et je rappelle quand même le titre de votre dernier livre, Persévérer, à découvrir, à déguster et paru aux éditions Paulsen, et bien sûr aussi le site de votre aventure à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, puis archives, et vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours ou mieux la télécharger pendant un an. Et c'est la fin de la Marche des Sciences. Merci de votre fidélité tout au long de l'année et depuis déjà plus de 6 ans. Et merci à toute l'équipe qui se joint à moi aussi pour vous souhaiter des jours heureux en 2016, bonheur et fraternité. Et toute l'équipe, c'est Catherine Donnet qui prépare méticuleusement l'émission chaque semaine, Anaï Morales, mes oreilles aux commandes pour les archives sonores, Céline Duchesnay, Catherine Decopé, les as du reportage, Alexandra Malka, la fée de la réalisation, et puis avec aujourd'hui à la technique le grand Jean Frédérix et Sandrine Ortuno de France Bleu Gironde. Et un coup de chapeau aussi aux documentalistes de l'INA et aux filles de la documentation sonore de Radio France, et je n'oublie pas non plus Romain Couturier de la discothèque. La semaine prochaine, pour commencer cette belle année 2016, un nouvel horaire. Vous nous retrouverez désormais à 16h. 16h, notez bien, on compte sur vous. Et puis, pour justement inaugurer cette nouveauté, nous recevrons l'historienne Amandine Marchal pour une plongée dans l'univers de son dernier livre, Maternité et petite enfance en Égypte ancienne. Demain, autre rendez-vous de Culture Science, Michel Albergantier, Sciences Publiques. Et puis dans quelques instants à 15h, c'est Culture Musique de Mathieu Garrigou-Lagrange qui vous attend. Mais tout de suite, les bonnes feuilles sont à vous. Bon réveillon et du bonheur surtout.